RTN Info.
Sonia Bernand-Hermia.
Bonsoir. L'ONUC part en quête de son premier titre cette saison. Les volleyeuses neuchâteloises disputent la Supercoupe depuis plus d'une demi-heure face à Kanti Schaffhouse. On retrouvera Marcel Neuenschwander d'ici quelques secondes pour faire le point. Sur les traces de Friedrich Dürrenmatt, le public était convié à une journée de festivités dédiée à l'écrivain hier dans le vallon de l'Ermitage à Neuchâtel. Et un bateau autonome qui permet de détecter des épaves et des objets au fond du lac de Bienne. C'est l'engin développé par 4 étudiants de la Haute École spécialisée bernoise. Le ciel sera encore chargé de nuages demain, des nuages qui pourraient bien lâcher quelques averses. Le soleil se fera timide. L'ONUC va-t-il remporter un 6e titre en 3 ans? Les volleyeuses neuchâteloises disputent la Supercoupe cet après-midi face à Kanti Schaffhouse. La partie a commencé à 17h30, elle est à suivre en direct sur RTN. Et puis on prend immédiatement la direction de Gümlingen pour retrouver Marcel Neuenschwander qui suit cette rencontre pour nous. Alors Marcel, est-ce que l'ONUC, dont l'effectif a passablement changé, est aussi compétitif que la saison précédente?
Eh bien, en tout cas, l'ONUC nous laisse une excellente impression. Ce début de confrontation, l'ONUC qui a assommé la formation schaffhousoise dans la première manche et qui s'est imposée 25 à 15, un en match. Mais attention, l'équipe alémanique, bien évidemment, n'allait pas se laisser manger tout cru et elle a relevé la tête. Nous disputons actuellement le deuxième set et les schaffhousoises mènent sur le score de 10 à 8. Elles sont un peu mieux dans leur match, mais enfin, on sent bien peut-être que Kanti Schaffhouse n'est pas encore fin prêt pour entamer cette nouvelle saison de volleyball. Vous le savez, la Supercoupe, tout simplement, c'est l'amuse-gueule, les prémices d'une saison entre le vainqueur du championnat de la saison dernière, en l'occurrence l'ONUC, et le vainqueur de la Coupe de Suisse, Kanti Schaffhouse. Généralement, on assiste entre ces deux équipes à des duels très serrés. On verra ce qu'il en est ce soir, mais pour l'instant, c'est très bien parti pour l'ONUC, qui égalise à 10 parties dans cette deuxième manche et qui a gagné la première 25 à 15.
Merci beaucoup Marcel, on vous retrouve bien sûr juste après le journal pour suivre la suite de cette rencontre. Les parlements des jeunes des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle veulent un accès égalitaire à l'éducation. Les représentants de la jeunesse s'inquiètent de l'extension du certificat Covid aux universités, aux hautes écoles et aux bibliothèques. Ils demandent au Conseil d'État neuchâtelois de maintenir la gratuité des tests rapides pour le monde étudiant et d'augmenter les possibilités de tests dans les lieux d'enseignement supérieur. Une journée de fête pour marquer encore une fois le centenaire de la naissance de Friedrich Dürrenmatt. Le centre Dürrenmatt à Neuchâtel organisait hier toute une série d'animations en collaboration avec le Jardin botanique et diverses associations. Lectures, torées, spectacles et concerts étaient au programme. Le public a pu découvrir des lieux autrefois utilisés par l'écrivain, tels que son bureau ou ses ateliers. Un nouveau sentier reliant le centre Dürrenmatt au Jardin botanique a également été inauguré à cette occasion. Mais finalement, pourquoi Friedrich Dürrenmatt, né dans le canton de Berne, est-il venu s'installer à Neuchâtel? La directrice du centre Dürrenmatt, Madeleine Betschart.
Il a beaucoup regretté que les Suisses-Allemands, les Romands et les Tessinois vivent pour eux-mêmes. Et c'est comme si pour lui, il y avait une autre vision, c'est-à-dire la cohabitation. Il s'est beaucoup intégré ici dans la vie de Neuchâtel. Il était un grand fan de Neuchâtel-Xamax. Il a eu des amis ici à Neuchâtel. Mais il n'a jamais renoncé à ses origines germanophones. Un beau exemple, c'est sa bibliothèque remplie de presque 4000 ouvrages, presque tout en allemand. Mais ce qu'on a aussi constaté, que en fait, depuis ici, il avait cette vue dégagée sur le lac et sur les Alpes et surtout sur la Suisse alémanique. Et ça l'a rassuré parce qu'il en parle dans son texte « Vallon de l'Ermitage ». Il dit « Depuis ici, j'ai vu la tour de l'église de Kukisberg. Kukisberg, c'est son lieu d'origine. J'ai aussi vu la Blüemlisalpe. J'ai aussi vu le sommet du Matterhorn. » Et c'est quelque chose qui l'a rassuré.
Certaines de ces observations ont certainement été faites au télescope qui permettait aussi à Friedrich Dürrenmatt de suivre les matchs de Xamax depuis chez lui. Un bateau qui explore les fonds du lac de Bienne, c'est l'appareil que 4 étudiants de la Haute École spécialisée bernoise, la BFH à Bienne, ont conçu sous l'impulsion de leur professeur. Ce projet a été décliné dans des travaux de bachelor. Steven Kerley est l'un des concepteurs du bateau, il en décrit les caractéristiques.
Pour l'instant, Walby, donc, qui est le nom de notre bateau, peut être commandé à distance depuis le centre de contrôle de la BFH. Ce bateau, il est capable d'exploiter les profondeurs du lac de Bienne à l'aide de nombreux capteurs Il mesure différents paramètres tels que la température de l'eau, la profondeur et la position GPS. Et il est également muni de deux caméras placées au-dessus et au-dessous du bateau. Et il est capable de générer sa propre énergie grâce au panneau solaire qui est fixé sur le bateau. L'objectif de Walby est d'exploiter le lac de Bienne. Avec les données du sonar et du GPS, il est possible de cartographier le lac. Et avec les images du sonar et de la caméra sous le bateau, nous pouvons localiser des épaves et des déchets dans les profondeurs.
Steven Kerley qui répondait à Séverine Boé. Ce projet va être repris par d'autres étudiants de la BFH, la Haute École Spécialisée Bernoise. Ceux-ci devront encore améliorer le bateau et son autonomie notamment. Vous trouverez un aperçu de l'appareil sur rtn.ch. Découvrir la vie à la ferme, plus d'une centaine de familles paysannes ont ouvert les portes de leurs exploitations aujourd'hui à travers la Suisse. La population a ainsi pu découvrir des animaux, des plantes et diverses techniques de culture. L'objectif de cette journée est de créer des ponts entre ville et campagne. Les mesures anti-Covid continuent de susciter la grogne d'une partie de la population. Environ 300 personnes sont descendues dans les rues de Bellinzone aujourd'hui pour manifester, entre autres, contre l'obligation de présenter un certificat à Covid pour franchir la frontière. Cette mesure ne concerne toutefois pas les frontaliers ni les personnes provenant d'une zone limitrophe ou en transit. Hier, les mesures anti-Covid ont également poussé dans la rue plusieurs centaines de personnes à Winterthur. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, ne rencontrera pas le président français Emmanuel Macron au mois de novembre à Paris. Le rendez-vous n'aura finalement pas lieu. L'Élysée réfute tout lien avec le choix de la Suisse d'acheter des avions de combat américains plutôt que français. Deux journaux dominicaux ont laissé entendre que la décision suisse n'aurait pas plu à Emmanuel Macron. La Suisse devrait siéger au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ce qui se profile en vue de l'élection de juin prochain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est en charge du maintien de la paix et des questions de sécurité. Il est composé de 5 membres permanents pourvus du droit de veto, soit la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, ainsi que de 10 pays membres élus pour 2 ans. Et en Russie, le parti de Vladimir Poutine roule vers la victoire. La population était appelée aux urnes ce week-end dans le cadre d'élections législatives. La formation Russie Unie n'avait toutefois pas de véritable concurrent après la liquidation du mouvement de l'opposant Alexei Navalny. Ce scrutin vise à renouveler les 450 mandats de députés de la Douma, la chambre basse du Parlement actuellement dominée par le parti du président Vladimir Poutine. Et l'Algérie a enterré son ancien président sans les honneurs habituels. Abdelaziz Bouteflika a été inhumé aujourd'hui dans le carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger, un cimetière réservé aux héros de la guerre d'indépendance. L'ancien président, chassé du pouvoir en 2019 après 20 ans passés à la tête du pays, a toutefois eu droit à moins d'honneurs que ses prédécesseurs.
18h passées de 8 minutes.
Sport.
Oui, le sport arrive au grand galop entre les mains de Yann Esler. Bonsoir.
Bonsoir Sonia, vous l'avez dit donc tout à l'heure, le NUC en volleyball est en train ou souhaite remporter un 6e titre en 3 ans. C'est bien parti pour les volleyeuses neuchâteloises qui affrontent donc Quanti Schaffhouse en Super Coupe. Elles ont gagné le premier set et c'est plutôt serré dans le deuxième set. On retrouvera bien sûr Marcel Neunfander juste après ce point sport à Gumlingen pour la suite de cette rencontre. On passe au football, on jouait cet après-midi les 16e de finale de la Coupe de Suisse. Bâle a notamment battu Rorschach 3-0, tandis que Saint-Gall a pris facilement la mesure du CS chinois 7-2. Enfin, Young Boys, champion de Suisse, s'est défait facilement d'Illyria, club seulerois de 2e ligue, sur le score de 7-1. En cyclisme, les Suisses sont déçus dans le chrono des championnats du monde en Belgique. Stéphane Kung, qui a terminé 5e et Stéphane Bisseguer 7e, n'ont pas pu monter sur le podium d'une course gagnée par Filippo Ganna. L'Italien a ainsi conservé son titre mondial. Le champion olympique de poursuite a devancé les Belges Wout van Aert et Remco Evenepoel. En motocyclisme, Thomas Lutti a échoué à la porte du top 10 lors du Grand Prix de Saint-Marin à Misano. Le Bernois s'est classé 11e d'une course gagnée par l'Espagnol Raúl Fernández. En moto Grand Prix, c'est Francesco Bagnaia qui a signé son 2e succès consécutif. L'Italien s'est imposé devant le Français Fabio Quartararo, le leader du championnat. Enfin, en moto 3, la victoire est revenue pour la 4e fois de la saison à l'Italien Denis Foggia. Toujours en motocyclisme, Dominique Aguerter ne sera pas champion de moto E. Le Bernois a pourtant franchi la ligne en premier lors du Grand Prix de Saint-Marin, avant d'être pénalisé de 38 secondes pour un accrochage avec l'Espagnol Jordi Torres dans le dernier tour. Cette pénalité a relégué Aguerter au 12e rang d'une course qu'il pensait avoir gagnée. Champion sortant, Torres était tombé après un contact avec le Bernois, qui semblait pourtant avoir pris le meilleur. L'ampleur de la pénalité laisse pour le moins perplexe. Le Suisse aurait donc été titré avec une victoire. 110 embarcations pour 501 participants issus de toute la Suisse et d'Allemagne. La 20e Bilac s'est tenue hier sous le soleil. La météo favorable a permis d'opter pour le parcours d'origine, à savoir Neuchâtel-Bienne via le canal de la Thielle. Et lors de cette course, c'est le Z-Club Bienne qui a été le plus rapide pour avaler les 32 km du parcours en 1h58. Toutes catégories confondues, c'est le 4 de couple du Z-Club Bienne qui décroche la première place, suivi du Rowing Club Berne. Le bronze revient à l'équipage mixte Holten-Harburg. Steinstrade.